La nuit sur cette terrasse, tout contre Carthage, je regarde lentement, sans me lasser. La mer est ma mémoire, mon radeau. Elle me conduit dans tous les temps de ma vie, au hasard de l'œil qui se cogne à un point, puis à un autre, et encore plus loin, et s'en va vers une vague, la touche, et revient vers la côte. Touche cette petite forêt d'eucalyptus et d'oliviers sauvages qui sépare la mer des maisons perchées en haut de la falaise. Son mouvement m'étourdit et cherche à me perdre en se perdant. Cet œil, il suffit toutefois de le suivre pour trouver le dessin du livre, qui seul peut-être contiendra sa vérité, celle qui brûle de dire et qu'il n'a jamais pu dire. Il lui faut parfois tant de détours, je le sais, et tant de confiance. Je dis tous les temps de ma vie pour aller vite, mais ce n'est pas ma vie. C'est d'abord la vie de ce pays, puis la vie de ceux que j'ai croisés furtivement un jour, dans un taxi, au café, sur la route, sur la plage, dans un train, à la campagne, en France, en Tunisie, en Égypte, en Italie, peu importe, des gens. La vie aussi de tout ce que j'ai imaginé et que j'appelle des amis ou des figures, plutôt que des personnages.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Chacun d'entre nous a ses lieux privilégiés pour se poser, pour éteindre un moment le tumulte de la vie, laisser monter le silence intérieur et voir, enfin, devant et derrière soi, la simple contemplation d'un paysage aimé dont on retrouve en un regard la forme, les couleurs, l'immuabilité, permet de se réancrer dans le temps, de se désintoxiquer des pollutions quotidiennes. Les yeux s'ouvrent, l'esprit s'envole et surtout l'important et le futile reprennent leur véritable place. En ce moment, il paraît que la mode dans nos sociétés gangrenées par la violence et la peur est à la méditation. Plutôt que de vous asseoir à 40 dans une pièce en sous-sol pour écouter un prof psalmodier des mantras sur fond de musique planante, allez donc arpenter une page bretonne par grand vent, écouter les oiseaux chanter à Vézelay, voir le soleil se lever sur la Loire, et même si la tristesse de ce monde ne se dissipe pas, au moins vous pourrez la supporter. Mais il y a aussi des livres qui aident à vivre, qui agissent sur nos âmes fatiguées comme un cordial, comme une caresse sur un front enfiévré. Depuis Le Petit Casino, publié en 1999, Colette Felos creuse sans relâche, avec une infinie douceur, le même récit au travers de livres qui tous racontent sous un angle différent la même histoire. L'enfance tunisienne, l'éblouissement du soleil et de la mer, la famille entre amour et douleur, le goût des mots, l'exil et l'approche de l'écriture. Le dernier paru, Pièce détachée, publié chez Gallimard, s'ouvre sur ce qui semble être un adieu au paysage aimé, jusque-là indissociable de l'envie d'écrire. Mais il y a eu trop de morts et de chagrin en cette terrible année 2015 où les assassins frappent au cœur de nos communautés, à Paris comme en Tunisie, et où soudain la disparition d'un ami cher semble marquer la fin de cette histoire. Pièce détachée, écrit à l'origine pour le père, est-il vraiment un adieu à ce pays qu'elle a toujours cru sien et où elle se sent désormais étrangère? Colette Felos nous le dira, puisqu'elle est aujourd'hui l'invitée de l'humeur vagabonde.
C'est des bouseilles d'étang, un promontoire qui s'avance dans la mer. D'où que vient le vent, il est chargé d'eau. Et c'est pour cela que la lumière de Sidi Bou Saïd a une douceur toute méditerranéenne, mais avec quelque chose de plus, avec la mer dans l'air, si j'ose dire. Moi, figurez-vous que j'y suis venu il y a une quinzaine d'années, parce que mon frère, il m'a prié de venir passer l'été chez lui. Et puis il a pris pour moi en location la maison où j'habite maintenant. Et je m'y suis installé, et alors, au lieu de passer l'été, j'y suis toujours. J'ai oublié de rentrer à Tunis. Sidi Bou Saïd a ce pouvoir magique de vous faire oublier de rentrer chez vous.
Bonjour Colette Fellows.
Bonjour Kathleen Evin.
Vous avez bien sûr reconnu ces petits cailloux blancs semés pour vous, la voix de Pavarotti, la voix d'Eddie Turki que j'ai récupéré dans un carnet nomade que vous aviez consacré à Sidi Bou Saïd. Et il dit quelque chose qui vous concerne aussi. À force d'aller à Sidi Bou Saïd, vous avez parfois oublié de rentrer chez vous. Mais en même temps, avec ce livre, on finit par se poser la question, au fond, c'est où chez vous, Colette Fellows?
Oui, c'est vrai que c'est une question essentielle, Kathleen. C'est, je sais plus. Je sais plus où est mon chez-moi. Mais je crois qu'en même temps, j'arrive à très vite construire un chez-moi. Donc, parfois, je peux aller très loin dans le monde et je sais pas, je me dis, ah ben tiens, je vivrai bien ici, c'est ma maison. Mais là, entre ces deux lieux, c'est vrai, comme Edith Turki, qui est peintre et qui dit, il y a la mer dans l'air à Sidi Bou Saïd, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de secret, d'envoûtant et de très simple et en même temps énigmatique à Sidi Bou Saïd. Et j'ai toujours pas compris ce qu'était ce village, comme j'ai pas compris ce qu'était l'histoire de la Tunisie non plus. Et ça m'aide aussi à vivre en France, parce que bon, c'est vrai que je suis ancrée en France. La France est devenue mon pays et je l'aime du fond de moi. Mais en même temps, j'ai besoin toujours d'avoir encore un pied là-bas. Peut-être parce que toute ma famille est partie depuis longtemps et que j'ai presque envie de continuer à vivre pour eux, à regarder, à leur raconter un peu comment c'est aujourd'hui. Quand Edith Turki parle de ce qu'il y a dans l'air, il y a un petit vent toujours à Sidi Bou Saïd. J'aime bien, on appelle ça le vent du soir, le nesma. Et en même temps, le nesma, c'est le souffle avec ce double sens, comme en français, le souffle de l'esprit et le vrai souffle du vent qui caresse comme ça. Et j'aime beaucoup être attentive à tout là-bas, aux sons, aux lumières. J'ai l'impression que tout est plus clair, plus dépouillé pour moi. Et en même temps, quand j'arrive à Sidi Bou Saïd, c'est comme si il y avait des siècles qui revenaient, des années, et que je pouvais lire à travers. Donc il y a une concentration différente peut-être. Ici, je ramasse plein de choses et là-bas, je dépouille, je trie, je classe.
Et là-bas, vous écrivez, Colette Fellows, parce qu'en fait, vous le dites dans ce livre, mais vous l'avez dit dans les livres précédents. Au fond, partir et revenir à Sidi Bou Saïd, comme on revient chez soi, même si c'est un chez soi un peu fantasmé parfois, c'est aussi le moyen de revenir à l'écriture pour vous. Or là, dans ce livre, il démarre par un cri de douleur. Alors, il y a des raisons intimes, il y a des raisons globales que nous partageons tous, mais il y a aussi tout d'un coup, pour la première fois dans ce livre, une interrogation terrible, c'est est-ce que ce n'est pas la dernière fois que je reviens ?
Oui, c'est vrai que le livre part avec cette décision brutale, cette fois, c'est trop, je m'en vais, je reviendrai plus. Et j'ai eu besoin c'est une question qui est là depuis très très longtemps, hein, depuis que je suis petite, il y a cette fragilité d'être en Tunisie et puis se dire, peut-être qu'un jour on partira, c'est même sûr qu'on partira un jour, mais quand j'étais petite, je savais pas pourquoi il fallait partir, mais dès 3 ans, 4 ans, 5 ans, on me disait ça. Ta vie sera ailleurs, sera en France. Et en même temps, je suis toujours retournée. Et là, j'ai eu besoin de revivre peut-être un arrachement que je n'avais pas eu. Quand je suis partie à 17 ans, je suis partie contente, libérée d'aller faire mes études à Paris. Et il n'y a pas eu d'arrachement. Donc je comprenais pas toujours cet arrachement dont parlaient les gens qui étaient partis pour toujours, qui étaient contraints de partir. Et donc là, j'ai senti, dans les premières pages du livre, il y a donc cet attentat à Sousse, et j'ai senti cette obligation de partir, de prendre une valise et hop, de quitter un pays qu'on aime, de quitter un lieu qu'on croyait nôtre. Et donc tout le livre passe par ça. Qu'est-ce que c'est voir les choses pour la dernière fois? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on sait que c'est la dernière nuit qu'on va passer, qu'on va vivre en fait? Peut-être pas pour toujours, mais c'est un peu comme une mort en fait. Partir, quitter un pays pour toujours, il y a une blessure, il y a un arrachement, on se contraint d'être un peu mort.
Mais d'ailleurs, la mort, Colette Fellous, elle ouvre les pages de ce livre. Alors c'est évidemment 2015, une année terrible, on n'a même pas besoin de rappeler, tout le monde l'a encore en soi, si proche. Mais il y a aussi une mort plus intime que vous apprenez là-bas, à Sidi Bou Saïd, c'est celle d'un ami très cher dont on va entendre la voix.
Je crois qu'il y a un rapport très étroit entre le désir amoureux et le désir d'écrire. Parce qu'en même temps, ce désir d'écriture, il est lié à son désir d'arrêter d'écrire. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas, après tout? Et donc, j'ai toujours vécu à chaque livre en disant, bah voilà, celui-là, c'est le dernier, maintenant j'arrête. Et puis finalement, l'écriture reprend le dessus. Mais peut-être il y a un moment où l'écriture s'en va, comme une femme. Pourquoi? Une femme, à un moment, vous quitte, elle ne veut plus de vous. Peut-être que l'écriture, dans le rapport amoureux que j'entretiens avec elle, elle ne veut plus de moi, et elle s'en va, elle claque la porte.
Carnet nomade, un jour à Sidi Bou Saïd, suite, dans la maison d'Alain Nadeau et de Sadika, à Gamarthe, ou dans le patio de l'autre côté de la Seine, des amis improvisés, des chansons.
Et oui, Colette Fellous, on vous entend en archive, on vous entend au micro. Et là, c'était la voix de votre ami.
Ça m'aime beaucoup,
Alain Nadeau.
Retrouver sa voix.
Voilà, du rire et des chansons à côté de chez vous, à Gamarthe aussi. Et quelque chose se brise quand vous apprenez la mort d'Alain Nadeau sur son bateau d'une crise cardiaque. Il ne reviendra pas. Et au fond, cette mort intime, cette mort d'un proche, elle vient s'ajouter, c'est ça aussi le travail de l'esprit, c'est que trop de morts, ça peut être aussi la dernière mort, la mort la plus proche. Comme si quelque chose s'arrêtait aussi en vous, en même temps qu'en lui.
Oui, c'est sûr que c'est... Il compare d'ailleurs l'arrêt de l'écriture ou de la littérature à la fin d'un grand amour avec une femme. Et quand il dit « une femme ne veut plus de vous », lui, c'était un peu ça, comme si l'écriture ne voulait plus de lui. Mais quand il est mort, en effet, je me suis dit « mais pourquoi je vais rester ici ?» Parce que c'était un très grand ami que je voyais à chaque fois. Et si lui est parti... Même s'il est mort d'un arrêt cardiaque, peut-être j'ai plus rien à faire ici. C'était pourtant un ami, hein, c'était pas du tout un amour, mais tellement proche. J'aimais beaucoup aussi son trajet, c'est-à-dire que je l'avais connu éditeur chez De Noël il y a très longtemps, écrivain. Puis il est tombé fou amoureux justement d'une femme, Sadika, et ça fait 20 ans qu'il s'est installé en Tunisie. Et il était très pudique, il parlait pas beaucoup, il n'était pas dans la confidence, mais j'avais l'impression que je le comprenais bien et ça m'émouvait beaucoup de savoir que lui était revenu dans un pays que j'avais entre guillemets quitté. Et je me suis dit, tiens, lui, il vit à l'année là, alors que moi j'étais contente de partir, de plus vivre à l'année là. Et qu'il soit parti comme ça, ça a été pour moi un arrachement vraiment très 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 fort, et ça m'a fait poser plusieurs questions comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'écrire? Qu'est-ce que c'est laisser que disparaître tout à coup. On peut disparaître par un amour qui disparaît, mais en même temps la personne, même si elle est vivante, elle n'est plus dans votre vie, donc elle est un peu morte aussi, hein. et aussi surtout cette mort qui a été suivie 15 jours après de l'attentat, c'était aussi, comme lui disait une femme qui veut plus de vous, j'avais l'impression que c'était aussi le pays qui voulait plus de moi, parce qu'on avait tué sur cette plage des étrangers, et je me suis posé la question, mais moi, est-ce que je suis étrangère au fond pour les Tunisiens, alors que je crois pas, enfin en tout cas ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas étrangère, mais un terroriste qui arriverait comme ça et qui me verrait, qu'est-ce qu'il verrait sur mon visage? Pourquoi il me tuerait? Et du coup, je me suis dit, au fond, j'ai peut-être été toujours étrangère pour les Tunisiens, alors que je croyais que c'était mon amour, la Tunisie. Vous voyez que c'était ce qui était le plus doux au monde et ce dans lequel je me sentais le plus en sécurité. Toutes ces questions se sont mêlées.
L'éclat des balles, on a l'impression, Colette Felous, quand vous racontez justement cet attentat et ce que ça a provoqué en vous, que ces balles ont fait exploser un miroir qui a explosé en milliers d'éclats et vous les ramassez dans ce livre qui s'appelle d'ailleurs « Pièces détachées ». Du coup, tout se mélange, le proche et le lointain, le passé et le présent, les amitiés intimes et le monde dans lequel vous vivez. Ça s'appelle « Pièces détachées » et pourtant, au départ, ce livre, vous aviez décidé que ce serait un livre entièrement consacré à votre père. On écoute la lecture d'une page de votre livre.
Mon père a grandi là, sans langue véritable puisque sa langue principale était l'arabe et qu'il lui a fallu la laisser pour apprendre le français à l'école. Elle ne lui servait plus qu'à parler à ses parents et plus tard à ses ouvriers, à ses clients. L'hébreu n'apparaissait qu'au moment des grandes cérémonies ou le vendredi soir pour la petite fête hebdomadaire. Il mâchouillait les mots à toute vitesse et on aimait le regarder faire. Il avait juste retenu la mélodie et la scansion de tous les vendredis soirs de sa vie et c'est ce qui nous amusait. Il avait un menu sourire complice pour expliquer qu'il ne fallait pas trop faire attention à ses fautes. Il restait debout devant le grand buffet et nous déjà assis autour de la table, impatient, battant des jambes, gentiment rigolard. Il tenait son minuscule cahier de prière. On ne savait pas s'il le lisait vraiment ou s'il inventait. Il se jetait d'un coup dans les mots avec une belle ardeur et enfilait tout d'un trait. L'essentiel pour lui était d'arriver le plus vite possible à la fin du chant pour nous permettre de lancer tous en chœur les deux syllabes sacrées. Il nous faisait signe avec la main quand c'était notre tour et nous chuchotions, comme pour mettre un point final à sa prière bancale. Le mot magique, tout à fait net cette fois. Amin, qui veut dire « nous sommes d'accord, nous croyons en tes mots, tu as dit la vérité ». Et il se rasseyait, satisfait. Il avait fait son devoir, mais en même temps il ne voulait pas nous encombrer. Il mettait alors sa serviette sur les genoux, tendait sa coupe de vin et buvait à notre santé. Nous avalions en vitesse le petit morceau de pain tacheté de sel qu'il avait distribué devant chaque assiette. Et nous nous jetions enfin sur notre beau vendredi soir, qui sentait bon dans toute la maison.
Colette Felous, dans vos livres précédents, c'est surtout la figure de la mère qui passe, puis il y a eu le frère aussi. Mais là, le père, mais lui aussi fait partie des pièces détachées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un récit du père. Le père est présent, finalement, pratiquement à chaque page, dans un souvenir, et parfois dans des souvenirs étranges, puisque en regardant une photo où il est bébé, dans les bras de sa propre mère, c'est vous qui le tenait dans les bras et qui regardait à la place de votre père. Ça a été un voyage aussi encore plus étonnant dans votre mémoire. La mémoire pour vous, c'est la malle au trésor, vous l'ouvrez puis vous écrivez. Mais là, on a l'impression que la malle au trésor, elle a débordé et elle vous a débordé.
Oui, c'est vrai que j'ai toujours, en écrivant... une espèce d'envie de gigoter et d'aller dans des années que je n'ai jamais vécues. Dans Avenue de France aussi, je me baladais en 1890 dans la ville de Tunis, au moment où les Français sont arrivés, ont construit la ville européenne. Et là, j'arrive jamais à faire un récit vraiment chronologique. J'ai besoin de voir plusieurs points du temps et de les éclairer les uns les autres, en fait. Et cette image que vous décrivez de moi portant mon bébé enfin mon bébé, mon père bébé dans les bras, c'est vrai que c'était mon bébé. À ce moment-là, j'ai eu envie, je ne sais pas pourquoi, on a parfois des images, on ne sait pas si ce sont des rêves ou des hallucinations ou des images qui insistent et qui veulent vous dire quelque chose et que vous, vous ne comprenez pas, mais vous regardez. Et dans ma tête, il y avait moi, en 1909, portant mon père bébé, qui avait 9 mois dans les bras. Et je me suis dit, c'est ridicule, je ne vais pas mettre ça. Et puis finalement, il faut faire confiance en ces images-là parce qu'elles vous disent des choses, elles vous donnent une direction. Et du coup, je l'ai gardé. Et puis, peu à peu, j'ai compris que si je l'avais bébé comme ça dans les bras, c'est que tout le livre disait que je portais mon père. Je portais l'histoire de mon père, que mon père, c'est quelqu'un qui n'a pas compté dans le monde, personne ne le connaît. C'est quelqu'un de très modeste, qui s'est même effacé devant nous. Quand on dit « bois à notre santé », il ne buvait jamais à sa santé. Hein. L'essentiel, c'était nous, les enfants, et lui, il se mettait en retrait, il se mettait presque en position d'infériorité. J'ai jamais vu ça chez des parents. Enfin, peut-être en Tunisie, il y avait quelques familles comme ça, qui avaient donné la culture aux enfants, beaucoup plus que la leur, et qui étaient admiratifs. C'est-à-dire, tout petit, on était déjà des héros pour ses parents. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Si je raconte la vie de mon père, je suis écrivain, je dois raconter d'une certaine façon, et la meilleure façon, c'est de le prendre tout à fait bébé. Et donc, voilà, j'ai pas filé cette image pendant tout le livre, parce que j'aurais pas pu, c'était un peu ridicule, mais je l'ai quand même gardée, parce qu'elle voulait dire quelque chose.
C'est comme payer une dette, moi j'ai eu l'impression, en vous lisant, oui. Colette Fellows, que alors que vous venez de dire que justement, il vous a permis d'avoir une culture qui n'était pas la sienne, mais qu'en même temps, voilà, cette dette, il faut la payer avec un livre.
Exactement. C'est un livre, c'est d'abord lui, un livre, c'était ce qu'il y avait de plus noble, hein, de plus beau, même s'il avait ce petit cahier de prière et qui n'était pas du tout religieux, c'est quand même, il était issu comme ça de cette communauté pour qui le livre c'était très important. Donc quand j'ai fait des études de lettres, il était très très content. Il était fier quand j'ai publié mon premier roman. Il sortait les critiques chez le boucher partout. Regardez, ma fille a écrit un livre.
Mais on ne sait toujours pas s'il l'a lu.
On ne sait toujours pas s'il l'a lu. Et c'est vraiment terrible cette histoire de ne pas savoir. Et en fait, voilà, donc il a toujours été, je crois que je lui dois beaucoup, c'est vrai, quand vous employez ce mot, dette, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour lui offrir ce qu'il m'a donné.
No! ce que j'aime aussi, dans ce que j'aime des autres, la forme brève est extrêmement importante. Je me sens un goût très prononcé pour les formes brèves. J'aime énormément cette forme ultra brève, symboliquement brève, qu'on appelle le haïku japonais, par exemple. Ou même en musique, les pièces brèves de Webern, c'est une chose qui me fascine énormément, ou les intermezzi de Schumann. Enfin, je suis très attiré par la forme brève. Alors pourquoi ? Je pense que ça serait pas très intéressant de chercher des raisons, comme ça, des raisons subjectives ou des raisons de valeur. Je pourrais dire tout simplement, je l'ai dit d'ailleurs une fois, c'est parce que j'aime beaucoup commencer. J'ai un plaisir d'invention. À trouver ou à faire l'attaque d'un paragraphe, l'attaque d'un fragment. J'aime bien commencer, j'aime bien rompre, j'aime bien imaginer la rupture avec le rien qui précède. Alors évidemment, en multipliant les fragments, je multiplie les plaisirs d'attaque.
Les plaisirs d'attaque décrits par Roland Barthes, bien sûr, Colette Felous, comment parler avec vous sans la voix douce de Roland Barthes, votre maître. Il n'est pas là par hasard, parce que il dit forme brève. C'est vrai que dans ce livre Pièces détachées, il y a des petites notations, certains chapitres, on peut dire chapitres, certaines parties plus longues, d'autres très courtes. Cet amour des commencements, soigner l'attaque, on sent bien aussi que vous aimez ça. Et puis, ce goût pour la photo, qui, depuis votre premier livre, est là. Il y a des photos. Vous êtes resté vraiment dans le chemin de Roland Barthes.
Oui, j'ai mis du temps à réaliser que c'était lui qui m'avait vraiment formé. Et depuis quelques années, je comprends que tout ce qu'il a dans sa voix, tout ce qu'il dit, toute sa façon de faire avancer les phrases aussi, je crois que je m'en suis vraiment imprégnée. Et elles sont restées en moi et m'ont vraiment influencée. Aussi, il avait toujours cette idée, maintenant c'est un peu, ça semble complètement désuet, mais le plaisir des plumes, des crayons, de se mettre au travail, de tout ce rituel, le thé, et comme si on allait entrer dans un terrain de foot où, je sais pas, il fallait s'entraîner et après, hop, on
mais
se lançait
aussi,
dans l'écriture.
Mais vous avez ce rituel.
Moi, je l'ai aussi, c'est
voilà,
vrai.
Le goût des crayons, la fenêtre, la c'est mer, vrai. La musique, le bruit du vent, et puis prendre son temps pour écrire.
Oui, c'est tellement important d'avoir une journée entière où on plonge. C'est vrai qu'à Sidibou, j'ai la chance d'avoir cette vue immense où il n'y a même pas de maison entre mon balcon, ma fenêtre et la mer. Il y a juste quelques arbres et la mer. Et depuis quelques livres, c'est le troisième livre que j'écris ici. Et j'ai l'impression que la mer, c'est mon écran d'ordinateur, mais géant, et que je peux faire entrer tout ce que je veux. Ça m'hypnotise et en même temps, ça me donne une direction. Il y avait aussi cette phrase de Proust qui n'est pas éloignée de Barthes d'ailleurs. Barthes citait toujours Proust et avait toujours cette lecture de Proust à côté de lui, tous ses livres. Proust, quand il expliquait sa recherche, ce qu'il avait voulu faire, il disait en fait, je vais écrire, je vais me laisser raconter comme ça, je vais me donner du temps, un grand livre, mais je ferai entrer des années, des jardins et des êtres oubliés. Et pendant toute l'écriture de Pièces détachées, j'avais cette phrase en moi. Je dis, voilà, des années, des jardins et des êtres oubliés. Donc, mon père, c'est un des êtres oubliés, mais il y en a beaucoup d'autres. Parfois, c'est vrai, en deux lignes, le visage ou de quelqu'un, d'un passant. Ou... J'avais envie qu'ils vivent, que tous les gens que j'avais rencontrés et qui m'arrivaient pendant l'écriture de ce livre, je les faisais entrer dans une grande farandole, et les années aussi, peu importe que ce soit aujourd'hui, le passé, tous les jours étaient importants, tous les jours avaient leur vie présente et palpitée. Évidemment, je mettais de la musique comme dans une émission de radio, des mixages et donc j'écris beaucoup en musique, et il y avait des musiques répétitives dont la furtive à la crima, là, qu'on a entendu tout
au
à
début,
l'heure,
oui.
De Donizetti, mais beaucoup d'autres, des chansons arabes, et c'était comme ma toile de fond qui me permettait de circuler dans le temps, dans l'espace, de faire apparaître des visages que j'aimais, et Barthes est dans ce livre, même furtivement, justement, mais avec sa notation sur le combat pour la douceur. Il disait, vous savez, c'est un moment, il faisait des chroniques, justement, des formes brèves dans le Nouvel Observateur, et puis un jour, il a arrêté. Et lui-même, il a dit, voilà, j'arrête, parce qu'il supportait pas, c'était un peu mégalo quand même, parce qu'il disait, je supporte pas que ma petite forme brève, que j'ai soignée, il avait passé beaucoup toute la semaine à écrire, à fignoler, soit entourée de pubs ou de choses qui étaient écrites à la va-vite. Donc il a dit, je préfère arrêter, et je préfère le combat pour la douceur. Mais j'aimais bien ces deux mots, le combat qui est violent, pour une chose douce, et ça c'est quelque chose qui me tient, et je me dis au fond, moi aussi, voilà, je veux me battre sans que ce soit nié, parce que la douceur ça a un côté nié, mais je pense que c'est aussi plutôt le soin des gens, le soin de l'écoute, le soin de l'histoire des autres, de les rendre proches, de voilà, ça c'est un combat de tous les jours, de parce que c'est facile aussi de mettre du désordre dans une vie et de voilà de tracer son chemin et puis de laisser tout le reste sur les côtés. Et non, c'est un combat jour après jour, finalement.
Mais c'est vrai que dans tous vos livres, Colette Fellows, il y a la douceur, il y a la joie aussi, très importante, la joie des rencontres, la joie des voyages, la joie d'exister, de vivre, la joie d'avoir connu les gens que vous avez connus, y compris les disparus. Mais dans celui-ci, Pièce détachée, il y a un sentiment nouveau dont vous n'aviez jamais parlé, et c'est la peur. On va écouter justement la lecture d'une page de votre livre où vous évoquez ce sentiment comme si c'était un sentiment très proche de vous et que c'était la première fois qu'il arrivait sous votre plume.
Pendant longtemps, enfant et adolescente, j'ai habité la peur. Partout, trop de regards muets qui annonçaient qu'un accident était proche. Ce n'était pas très clair, mais la violence ou la catastrophe semblait imminente. Je ne savais pas que c'était de la peur. Je l'ai compris bien plus tard. Mais cette chose sans nom m'inondait, m'assaillait, me recouvrait, m'emprisonnait. Diffuse, elle ne me quittait jamais. Peur des visages silencieux que je croisais dans la rue. Peur d'une violence invisible que je percevais clairement et dont je ne pouvais témoigner. C'était mon expérience intérieure, celle qui m'a forgée et m'a fait grandir. J'étais une enfant inquiète, je me sentais comme une orpheline, alors que mes parents m'entouraient du mieux qu'ils pouvaient. Je crois que c'est leur fragilité qui m'a rendue si inquiète. La fragilité dans laquelle ils étaient embourbés depuis leur naissance, et peut-être même bien avant. Ils m'apparaissaient complètement désarmés, ne comprenant rien à leur vie, ni à la vie tout court. Et puis il y avait la ville, les trottoirs cabossés, les grilles d'immeubles détériorées qu'on ne réparait jamais, la chaux qui s'en allait par plaques pendant l'hiver, les portes gonflées d'humidité, les maladies bizarres sur la peau de certains passants, la lèpre, la variole, les bonnets sur la tête quand il y avait des poux, la robe déchirée de la grosse mendiante sur les marches de la synagogue, entourée de ses grands paniers et de son chien d'une blancheur éclatante. Elle lui tricotait des pulls de toutes les couleurs. Elle ne faisait que ça. Il était très chic, alors qu'elle, en haillons. Tout cela était étrange et ne correspondait pas à mes livres d'école où les poèmes et les grands textes traversaient les siècles, les scandaient. Chaque époque avait sa langue propre. Et chacune m'étourdissait, m'éblouissait. Le papier sentait bon. J'avais envie de m'y blottir. Je voulais être libre, très loin de ce que je voyais autour de moi. Je faisais semblant d'être une enfant très joyeuse pour ne pas me faire remarquer et surtout pour ne pas propager ma peur dans la maison qui tenait déjà en équilibre très fragile. J'ai avancé comme ça, sans rien dire, en faisant comme si.
Colette Fellows, on vous considère souvent comme quelqu'un de joyeux, vous le dites. J'ai fait semblant d'être une enfant joyeuse. En fait, c'est la première fois que, sous votre plume, il y a cet aveu de la peur. On se dit que c'est peut-être cette terrible année 2015 et ces morts autour de nous qui ont fait que, tout d'un coup, vous avez laissé venir cet aveu.
Oui, c'est vrai que c'est la première fois, peut-être, j'ai laissé entendre dans d'autres livres, mais très brièvement. Et dans ce livre, j'avais envie d'être crue, comme si il fallait tout dire, comme le scénario était que j'allais quitter ce pays, donc il fallait que je dise tout à la fois l'amour pour ce pays, parce que depuis petite aussi, j'ai toujours aimé la beauté, l'étrangeté, le mystère de ce pays, mais il y avait cette peur dont je ne parlais jamais. Et c'était bizarre, parfois j'avais quoi, 8 ans, 9 ans, et je me souviens, je dormais pas, j'avais peur, je me disais, j'avais presque mal à la poitrine, et je me disais, c'est demain matin, je serai pas vivante, mais je veux pas le dire à mes parents maintenant, parce qu'ils vont s'inquiéter. Donc j'étais sûre que j'allais mourir dans la nuit, et tout ça parce qu'il y avait des choses bizarres dans la ville, mais on n'en parlait pas. Tout le monde a grandi comme ça, en fait, des deux côtés. J'ai une image, par exemple, d'un marchand de légumes à qui j'achetais des abricots. J'ai plus, ma mère m'envoyait acheter des abricots, et on se parlait pas. On avait les visages comme ça, l'un en face de l'autre. C'était un vieux monsieur qui m'avait fait des cadeaux, il me donnait une pêche en plus ou quelque chose, et il me regardait avec un sourire tellement bon. Et puis moi aussi je souriais, mais on était empêchés par quelque chose, et ce même visage bon pouvait peut-être, dans mon imagination, pouvait se retourner, parce qu'on nous disait un peu quand même, sans qu'il y ait de tout, on nous disait, mais attention, dans la rue, ne parle pas bon comme tous les parents, mais quand même, je me disais, mais pourquoi ce visage qui est, pourquoi il parle pas ma langue? Et je savais plus, par exemple, s'il pouvait se retourner et être méchant, ou aussi si lui était étranger ou moi était étrangère. Je savais plus pourquoi il parle pas ma langue et moi pourquoi je parle pas sa langue. Donc il y avait cette énigme. Et je sais que voilà, j'ai grandi avec cette peur. Et quand il y a eu les attentats, même évidemment en France, ça a ressurgi. Vous voyez, toute une peur d'enfance souterraine comme ça. C'était pas possible qu'en plein Paris, il y ait cette intrusion comme ça et ce massacre. Donc ça n'a pas cessé après, pendant toute l'année et encore aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une alerte et un attentat n'importe où dans le monde, ça se réveille. Cette fragilité d'enfance et cette, surtout de ne pas mettre de mots sur cette situation. Donc là, j'ai eu envie de dire aussi cette peur, et aussi la peur de mes parents qui nous l'a cachée. Ils nous avaient caché la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, tout ça. Ils ne voulaient pas nous le dire. Mon père avait eu aussi, une fois, je me souviens, une lettre de la Manoir, qu'on appelait la Manoir. Et il tremblait de peur. On lui disait, on va tuer tous vos enfants si vous nous apportez pas, je sais plus combien de sous, au Belvédère, jeudi à 10h du soir. Et on le savait à peine dans la maison, mais on avait très très peur. Lui avait peur, mais il nous le disait pas. Vous voyez, on avait grappillé cette chose, mais c'était jamais parce qu'il voulait nous protéger. Mais maintenant, j'ai eu envie de dire voilà la vérité aussi, cette histoire qu'avant tout allait très bien entre toutes les communautés, que c'était le paradis, cette société cosmopolite et tout. J'avais envie de dire aussi que c'était plus nuancé, c'était pas si bien que ça, mais c'était possible, et il y avait des moments de joie, de bonheur et de vrais échanges.
J'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Près des mines de Salta, il ne nous fallut qu'une heure et trois jours. 2000 ans que j'attendais ça, qu'on me dise de tels mots d'amour. Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut chaque jour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. À la fois trop plouc et trop chic pour une fille comme toi.
Boum, 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 à mover el boum, boum, boum.
Reine des Palm Queens.
Boum, boum, à mover el boum, boum, boum.
Reine des Palm Queens. Demi ans que j'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Je serai ta, non, crois-moi, je serai ta Chita, mon amour.
Chiquita, chiquita, chiquita.
Je serai ton Alexandrie, pourquoi pas ton Manon, là pour toujours. 2000 ans que j'attendais ça, matin et soir et le midi, mon amour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop plouc et trop chic.
me lo decían hace 2000 años no lo creía, cantando con un francés acabaría. Mucho menos cumbia, rap y boom, boom, boom. Escribir canciones tomando cerveza y Coca-Cola con rum. Me dice que le encanta cantar conmigo. Todo es casi ridículo, de película te digo. Mi romántico cantante francés. Estaría escuchándote las 24 horas de los 31 días del mes. Me dice que soy la reina de Palermo, Queens. Yo le dije que no soy cantante, que soy actriz. Si me lo decían hace 2000 años no lo creía. Escuchando La Mona Jiménez con Benjamín Violet terminaría. Me encanta ser su reina de Palermo, Queens. Y pareciera que absolutamente todo es posible en París. Todo es posible en París.
¿Qué me tu dis? Qu'on ne joue pas pour la ridicule. Et tu dis que je suis à la fois trop plouc et trop chic pour une fille comme toi. Reine de Palermo Queens. Et reine de Palermo Queens.
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
Colette Felous, dans Pièces détachées, comme dans tous vos livres, il y a aussi beaucoup de musique, toujours. La musique que vous écoutez, celle que votre mère fredonnait, celle que votre père aimait, celle que vous avez entendue en Tunisie, puis ensuite à Paris. Alors, justement, pour terminer cette émission, avec un reportage comme il se doit, Gladys Mariva nous a rejoint parce qu'elle a voulu justement vous faire entendre un peu des voix de certains Tunisiens qui sont venus à Paris pour pouvoir faire leur musique en toute liberté. Bonjour Gladys.
Bonjour Kathleen, bonjour Colette Felous.
Bonjour.
Il s'appelle Madou MC, il y a aussi le guitariste et chanteur Haïdar Hamdi et le percussionniste Tarek Maroufi. Et je les ai rencontrés vendredi dernier avant un concert à Paris. Comme d'autres artistes tunisiens, ils sont arrivés en France récemment avec des visas compétences et talents. Ils ont fui la Tunisie après la Révolution parce que selon eux, la Tunisie n'est pas faite pour les jeunes et les artistes ne peuvent pas créer là-bas, ni critiquer, ni s'exprimer librement.
Pourquoi vous êtes parti?
Parce que là-bas, il y avait des limites. Côté musique, côté vie, côté études aussi. Moi, je faisais des études. Jusqu'à maintenant, j'ai mis ma licence dans un tableau dans la chambre de mes parents, tu vois. Et côté musique, parce qu'on avait des limites aussi. Côté marché et tout, tu peux plus avancer. T'as que faire de la musique, enregistrer, mettre sur YouTube et voilà. Et mode de vie, rythme de vie, il y avait trop de pression en fait. Tu peux rien faire et tu peux rien vivre, quoi. Soit tu le vis avec, soit ils te mettent en prison. J'ai fait la prison, mais j'ai pas volé, j'ai jamais volé, ni braqué. C'était consommation des joints, parce que nous en Tunisie on prenne 1 an et 1000 dinars d'amende. 1 an de prison ferme. Donc moi j'ai passé 6 mois et je suis sorti après 6 mois parce que je faisais mon projet de fin d'études en prison. Donc j'ai fini mes études là-bas. Le risque en Tunisie, c'est entre 18 ans et 35 ans. Il ne faut pas rester en Tunisie. Parce que c'est là que tu vas avoir des problèmes, c'est là que tu vas avoir tout, en fait. Donc j'ai dit, je vais partir d'ici, c'est juste parce que je ne dois pas être ici à cet âge-là. Je veux encore faire de la musique, je veux encore critiquer. Je ne suis pas du genre des rappeurs qui font du rap bling-bling ou du rap commercial. C'est pas un truc d'argent ou un truc de mode de vie qu'on vivait pas bien. En Tunisie, on vivait super bien. Pour pas dire, on n'est pas riche, mais on vivait bien. On n'avait pas, c'était pas la misère. Mais on a changé de ville ou bien on a changé de pays. C'est parce que on avait vraiment besoin de sentir libre. En fait. Donc, on a décidé de bombarder de dehors, en fait. Quand on avait le problème de la liberté d'expression et il y avait plein de rappeurs qui étaient là pour nous, et plein de journalistes et plein d'activistes aussi. Mais après tout, ce qui se passe dans le monde, en fait, ça commence à être un peu bizarre. Mais mon problème à moi, dès que je suis venu en France, je montais dans le métro. Le fait que tu es arabe, ou le fait que tu es tunisien, ou le fait que tu as l'air d'un Tunisien, ou d'un Algérien, ou d'un Marocain, il y a tout le monde qui tient de leur sac. Moi, des fois, je mets mes deux mains en haut pour montrer que je ne suis pas un voleur, quoi. Je comprends bien qu'il y a des gens, au minimum, il a un pote ou une amie qui a été agressé ou il a été volé. C'est juste comme nous, on ne met pas tout le monde dans un seul sac. Comme on dit, il y a des Tunisiens voleurs, il y a des Français qui volent, il y a des... C'est partout en fait, le bien et le mal, c'est dans tout le monde.
Alors au début, on venait en France, c'était pour faire une tournée de concerts avec un collectif qui s'appelait Mix Bros. Au début, on a fait 3 concerts sur Paris. C'était en 2012, c'était juste après la Révolution. Après, moi, j'ai réussi à avoir un visa artistique de 3 ans. J'ai signé dans une boîte avec. J'avais tous mes potes qui m'ont rejoint. On s'est mis à bosser et du coup, finalement, on est resté à tourner en France. On rentre souvent en Tunisie quand même. Mais il faut dire qu'on tourne plus souvent en France, surtout à Paris. Il faut dire qu'en venant en France professionnellement, on a franchi un palier parce qu'il y a plus de structures en France qui s'occupent des artistes, que ce soit pour entretenir un projet, pour répéter, pour enregistrer, pour tout. Et du coup, c'est un des avantages que le voyage nous a procuré. J'ai beaucoup d'amis français. Je suis parti, j'ai vécu un peu à Lyon. J'ai bougé un peu en France, il faut dire. Entre Lyon, Paris, j'ai de la famille à Saint-Julien-du-Verdon. Ça, c'est très, très loin. Mais c'est vrai, ça reste magnifique, c'est un petit village. Mais sincèrement, quand vous voyez que dans un petit village, il y a 500 personnes, dès que vous débarquez, tout le monde vous cherche, on vous aime beaucoup et tout, vous vous rendez compte que tout ce qui se dit à la télé, c'est pas vrai, quoi. La France, elle est tranquille, la France, elle est belle, magnifique. Moi, j'adore être ici. Dans des endroits comme dont je vous parle, à Saint-Julien-du-Verdon, ce que les gens ils connaissent, par exemple des Tunisiens, c'est juste tout ce qu'ils voient à la télé. Vous voyez. Donc, quand ils m'ont côtoyé, j'étais le premier Tunisien à débarquer chez eux. Au bout de 3 jours, je suis devenu ami avec tout le village. Et la plupart, ils me disaient, on ne comprend pas pourquoi ils disent autre chose à la télé, c'est pas pareil. Vous voyez. Mais c'est comme ça, vous savez, j'ai jamais eu de problème de... racisme ou de c'est que non, rien, vraiment rien, j'ai toujours été bien accueilli, même musicalement, quand je chante en arabe, je chante en anglais, mais on a réussi à faire beaucoup de scènes à Paris, en passant du métro au Divan du Monde au Casino de Paris, on a tout fait, et la réponse des gens, ça a été toujours sympa, ils étaient accueillants, et ce qui nous a même poussé à rester ici, quoi.
Moi, c'est Tarek. En tant que Tunisien, vivant en France, je ressens pas l'envie d'être autrement à part étranger en France. Je suis étranger en France et c'est super parce que je suis Tunisien, j'apprécie beaucoup ce pays, je partage beaucoup de choses et ça se passe super bien avec les gens, notamment en musique. Je constate qu'on fait beaucoup de bien aux gens. Il y a même des gens qui nous disent heureusement que vous existez. C'est grâce à des gens comme vous qu'on votera pas FM en France. Yes, I am.
Colette Fellous, vous entendez ce qu'a dit ce dernier musicien au micro de Gladys Mariva. Moi, j'aime être étranger en France. Et je trouve que pour conclure notre discussion sur votre livre, aimer être étranger ou étrangère quelque part. Au fond, entre la première page où vous dites « je sais sans doute la dernière fois » et la dernière, j'ai l'impression que vous avez fait un voyage à peu près semblable à celui de ce jeune Tunisien étranger en France.
C'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'à la dernière page, je dis que en fait, c'est plus fort que moi, je reviendrai toujours. J'ai besoin aussi d'être de ce pays, j'ai besoin des Tunisiens, et il y a cette force de l'étranger, c'est vrai, c'est une position presque philosophique, être dans un pays et se sentir étranger, tout en étant complètement dans le pays, en respectant les lois et le mode de vie, ça donne une grande liberté, en fait. grande liberté parce qu'on a un regard à la fois différent et en même temps proche. Et moi, en France, je me sens pas étrange. Je peux pas dire que je me sens étrangère, mais
vous avez une étrangeté,
voilà,
peut-être.
J'ai quand même, voilà, j'ai une toute petite distance toujours. Peut-être, oui, à étranger, je rajouterais ça, ce mot de distance entre ce que je vois, ce que je suis. Je sais pas trop. C'est confus, hein, ce qu'on est. Mais ce qu'on est, c'est ce qu'on voit, peut-être. C'est ce dont on est témoin. Et mais j'ai un vrai amour aussi pour la Tunisie et pour ce qu'elle devient. Ces jeunes disaient qu'après la révolution, ils avaient l'impression d'être très libres et tout. Puis après, très vite, il y a eu des emprisonnements pour rien, des rappeurs, ou une chanson dont les paroles n'allaient pas. Donc ça, c'est un peu revenu. Mais quand même, il reste dans le pays aujourd'hui une liberté par rapport à la dictature de Ben Ali. Et ça, je crois que voilà, il va falloir encore beaucoup d'années peut-être, mais moi j'ai confiance.
Merci infiniment Colette Fellows d'être venue nous voir aujourd'hui. Je rappelle que ce livre, Pièces détachées, vient de paraître aux éditions Gallimard et que ce ne sera donc sûrement pas le dernier écrit devant la mer à Sidi Bou Saïd. Merci à vous.
Merci beaucoup Kathleen.
C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce dimanche, mais bien sûr, nous nous retrouverons la semaine prochaine, si vous le voulez bien. J'aurai le plaisir de recevoir Nicolas Truong, Nicolas Bouchot et Judith Henry pour une pièce qui vient de démarrer au Rond-Point et qui sera en tournée en France jusqu'en juin et qui s'appelle Interview. Et bien sûr, après les informations de 15h, France Inter continue avec Fabienne Chauvière qui vous attend pour ses aventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.